Bonsoir. Le Front commun pour le Congo a publié samedi dernier son équipe de campagne pour la présidentielle du 23 décembre prochain. 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été documentés en 2018, dont un emprisonnement, a révélé l'ONG Journaliste en danger, JED en sigle, dans son rapport publié vendredi dernier à Kinshasa. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la presse. Et nous avons dans cette émission Jean-Pierre Kayembe, il est directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA en sigle. Bonsoir Jean-Pierre Kayembe.
Bonsoir chers du matin, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Puis Gérard Elenga, journaliste politique, bonsoir puis Gérard Elenga.
Oui, bonsoir Guy Matin, bonsoir également à tous les auditeurs de la Radio Capi, précisément de cette émission Tribune de presse, mais aussi bonsoir à tous les ressortissants de l'Équateur qui sont ici à Kinshasa.
Et Edel Martin Kabuta Kapwa, il est directeur général de la radio-télévision Nsanga, émettant des Kananga au Kasaï Central. Bonsoir Edel Martin Kabuta Kapwa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi, la radio de la paix.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, on voit comment les journaux quinois ont traité l'actualité de la semaine. On écoute donc Dona Madimba dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Liste complète ou pas, officielle ou pas, l'annonce le week-end dernier d'une liste de campagne du candidat de la plateforme pro-pouvoir FCC a focalisé l'attention des médias de la RDC le lundi de la semaine qui s'achève. C'est ainsi que Forum des As faisait œuvre utile en écrivant, je cite, « Le FCC va publier ce lundi la liste officielle de l'équipe de campagne du candidat du FCC afin de couper court à la polémique suscitée par celle qui circule depuis samedi dernier sur les réseaux sociaux, rappelant que cette liste du FCC a suscité le jour d'après de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec les démentis de certaines personnes dont les noms se trouvaient sur ces listes et qui auraient été désignées à leur insu. C'est aussi le cas du journal Le Phare qui titre « L'équipe de campagne de Chadari démentie en cascade ». Des démentis comme par exemple celui du célèbre sélectionneur de l'équipe nationale de football Signal Actualité.cd ajoutant que Florent Ibengue dit n'avoir pas été consulté. Actualité.cd insistant que le nom du sélectionneur national de la RDC figure pourtant bien sur la liste présentée par le FCC comme membre de la cellule des sports dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Chadari, candidat à l'élection présidentielle du FCC. Le média en ligne 7 sur 7.cd écrit pour sa part qu'au total 16 personnes constituent l'ossature de cette cellule de campagne du candidat Ramazani Chadari. Le Phare revient en faisant remarquer que le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Milania, par ailleurs coordonnateur du FCC, a soutenu que la liste en circulation dans les médias comme dans les réseaux sociaux n'est pas la bonne et promettait la liste authentique pour lundi 5 novembre dernier et au quotidien du centre-ville d'espérer, je cite, que sur la liste promise par Némi Milania pour lundi, des précautions utiles seront prises pour placer dans l'équipe de campagne de Chadari des personnalités réellement intéressées à l'accompagner dans sa croisade vers la magistrature suprême du pays, de manière à éviter un nouveau round de contestations. Fin des citations. Mardi et mercredi, c'est plutôt la désignation éventuelle d'un candidat commun de l'opposition qui faisait parler de lui dans les médias du pays. Aussi, le Phare écrivait « Une réunion décisive se tiendra à partir du mercredi 7 novembre à Genève, en Suisse, entre les leaders des 7 principaux partis de la coalition électorale, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi-Tchapwe, Vital Kamere, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito et Félix Antoine Tshisekedi, commentant que le choix se fera entre Félix Tshisekedi, Vital Kamere et Martin Fayoulou et Freddy Matungulu, vu que Bemba Muzito et Katumbi ont été invalidés. Et à cas-info.cd de rapporter que Jean-Bertrand Ewanga, membre de la plateforme Ensemble, a assuré que le programme commun de l'opposition, lui, est déjà, je cite, élaborée. Pendant que la prospérité pronostiquait la victoire de Félix Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition, 7 sur 7 points cédés et le potentiel révélait que Théodore Ngoï, Seth Kikuni, Marie-Josée Ifoku, Noël Tiani et Alain Daniel Chekomba, 5 autres candidats à la présidentielle en RDC, se rencontrent eux aussi, mais à Kinshasa, pour désigner un candidat commun de l'opposition et au potentiel de s'inquiéter, je cite, à cette allure, la recherche d'un candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre 2018 crée déjà des fissures dans les rangs de l'opposition. Mais les écrits du Forum des As pourraient un peu rassurer. À 45 jours des élections, écrit le journal, les confessions religieuses se mobilisent. Nous entendons prévenir plutôt que guérir en vue d'obtenir des élections sans gap conflictuel majeur, a déclaré le président de la CIME, le révérend Delphin Elébé, lors de l'ouverture mercredi à Kinshasa du Forum pour la paix et la réconciliation. Ici, le quotidien estime que ces confessions religieuses, qui sont réunies au sein de la commission d'intégrité et de médiation électorale CIME en sigle, sont déterminées à se placer au milieu du village en vue d'amener tous les fils et filles du pays à un consensus autour des élections qui se veulent apaisées.
Merci à vous, Donat Madimba, Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA en sigle. À part les deux thèmes retenus pour les débats de ce soir, et quelle est l'actualité de la semaine que vous comptez commenter ce soir?
Merci beaucoup, Guy Mathieu. J'en profite également pour saluer puis Gérard, l'autre confrère du CAFAI qui est en ligne avec nous. Je crois que je suis très impressionné par le dynamisme dont se montre le Front commun pour le Congo, pendant que certains se recherchent encore un candidat commun, se fixant des rendez-vous à l'est, tantôt à l'ouest. Le Front commun reste, fixé sur ses objectifs. Je note l'arrivée le jeudi à Mbujimayi, d'Emmanuel Ramazan Ishadari, précédé par Bruno Tshibala, qui va être présenté à la population de Mbujimayi. Pour moi, réserver sa première sortie à dehors de Kinshasa depuis qu'il a été désigné candidat président pour le compte du Front commun pour le Congo au Kasaï oriental, la symbolique est très très forte. Je crois que c'est la plus grande information, à mon avis, en dehors de cette liste dont nous allons parler tout à l'heure.
Merci P. Gérard Elenga, journaliste politique. C'est quoi l'actualité que vous commentez ce soir?
Très bien, merci beaucoup Guy Mathé. Je salue mon ami et frère Jean-Pierre Kayembe, mais également Martin qui se trouve de l'autre côté à Kananga. Pour moi, je veux revenir autour de deux préoccupations, si vous voulez. La première, c'est cette pluie qui a eu hier ici au niveau de la ville de Kinshasa. Devant une situation qui est telle que je suis en train de craindre l'ingouvernabilité qui peut s'annoncer bientôt lorsque tout le gouvernement va aller à la campagne électorale, les uns pour le soutien à un candidat président de la République et les autres pour leur propre campagne comme étant candidat député national ou provincial. Mais je me pose la question, comment est-ce que le pays va être géré pendant cette période? Est-ce qu'on saura accumuler les fonctions gouvernementales, les fonctions officielles avec ce qu'on va faire pendant la campagne? Il y a eu la pluie hier, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'état des routes, hein, dans un état de délabrement très avancé, et il n'y avait pratiquement pas moyen de passer parce que tout était bouché, les caniveaux, donc cette situation laisse vraiment à désirer. Et nous, comme habitants de Kinshasa, particulièrement ici à Founa, dans mon district, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faudrait qu'on fasse vite pour résoudre ce problème, bien que la législature est finissante. Alors, deuxième préoccupation, c'est celle liée à cette arrestation de notre confrère Peter Tiani. Au-delà du fait que les avis peuvent être partagés selon qu'on est dans une situation de responsabilité journalistique quant au rendu d'une information, mais je crois quand même que cette situation de pouvoir venir prendre des journalistes comme ça, comme des petits messieurs, comme des malfrats, ne nous honore pas. Je crois que ceci refait face avec tous nos confrères qui sont allés au Parlement, mais qui n'ont presque rien foutu. Ils sont allés là-bas pour soulever les doigts et les descendre avec cette histoire de la dépénalisation du délit de presse. Moi, je crois qu'un journaliste, on ne peut pas le traîner comme ça en justice, même s'il n'est pas un super citoyen. Mais les droits de réponse existent. Lorsque vous êtes versé, passez dans le même média pour donner votre droit de réponse. Voilà pour moi les deux préoccupations qui ont retenu mon attention au-delà des thèmes que vous venez d'annoncer, que nous allons débattre au cours de cette émission, M. Guimet.
Voilà, nous exprimons aussi notre solidarité vis-à-vis de notre confrère Peter Tiani. Edel Martin Kabutakapwa, directeur général de la radio-télévision Nsanga, émettant de Kananga au Kasai Central. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité aujourd'hui à Kananga au Kasai Central?
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Je voudrais aussi saluer tous mes deux co-débatteurs, les confrères qui sont avec vous au niveau des studios. Au niveau de la province du Kasai Central et plus précisément dans la ville de Kananga, je voudrais qu'on parle un peu d'informations qui ont retenu notre attention. D'abord, la première information, c'est par rapport à la hausse des prix de maïs qui est parti de 1800, 3500, 4000, mais qui venait d'être vraiment revu à la baisse suite au dialogue convoqué par le gouverneur de province avec la société civile, les directeurs de la région de la SNCC, les opérateurs économiques ainsi que la presse locale. Je pense que c'est un bon exemple dans le sens que lorsque les gens sont unis, il y a lieu vraiment qu'ils trouvent solution aux problèmes qui affectent. Mais aussi, l'actualité au niveau de la ville de Kananga, c'est la chasse au marché pirate sur instruction du gouverneur de la province qui a vu que la province ou la ville devenait de plus en plus sale. Il a instruit le maire de la ville, le bourgmestre de la commune de Kananga qui ont commencé et surtout le commandant de la RVA qui aujourd'hui est allé à la chasse aux sorcières avec tous les marchés autour de l'aéroport. L'aéroport national de Lungando à Kananga en prévenant tous les accidents qui peuvent subvenir, mais qui est allé aussi dans cette campagne de sensibilisation.
Merci.
Pour que les gens comprennent qu'il n'est pas bon d'habiter ou de constituer des marchés ou même des champs autour de l'aéroport de Kananga.
Merci.
La troisième information au niveau de la province, c'est la mise en garde sévère du commandant secteur opérationnel au Grand Kasai contre les semeurs des troubles. Guy Maté, vous allez comprendre que nous sommes en train d'approcher vers les élections, mais entre-temps, les événements des tristes mémoires qui ont secoué cette ville, cette province, jadis connue comme Oasis de paix, il y a encore des menaces, surtout dans le territoire de Dibaya, où l'on entend de gauche à droite, il y a même certaines écoles qui
Merci
ont fermé.
Edel Martin.
Parce que... Allô, Guy Maté?
Voilà, on n'aura pas le temps de parler de tout ce qui se passe au Kasai Central ce soir. Et donc, on peut passer à notre premier thème de ce soir. Le Front commun pour le Congo a publié samedi dernier son équipe de campagne pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Et cette équipe comprend 48 cellules chargées respectivement du programme commun, des relations avec les partenaires intérieurs, de la sécurisation des candidats, de la concurrence et mesures de confiance, des recrutements et encadrement des témoins, des finances et logistiques, de la centralisation des résultats et des questions juridiques et observateurs nationaux et des transports. Chaque cellule est animée par un coordonnateur secondé par un rapporteur. D'autres précisions avec vous, Innocent Olenga.
Parmi les coordonnateurs de ces cellules, on peut citer par exemple Henri Mova en charge de la sécurisation, Azarias Roubéroa chargé de la concurrence et mesures de confiance, Lambert Mende se charge de la communication, Obé Minaku est à la tête de la cellule de coordination et de recrutement, Moïse Kanga s'occupe des finances, Alexis Tambemomba est à la centralisation des résultats, Maître Némi Mouilania aura la charge des questions juridiques et observateurs nationaux, tandis que José Makila se chargera des transports et Modeste Bahati est à la tête de la cellule chargée des relations avec les partenaires intérieurs. Quant à Zoé Kabila, il coordonne la cellule jeunesse et Jeannette Kabila rapporte à la cellule finance et logistique. Le gouverneur André Kimbuta, pour sa part, se charge de la cellule des artistes. La charge de publier les programmes communs a été confiée à la cellule ad hoc qui devra le faire dès la semaine prochaine et cette cellule est chapeautée par Évariste Boshab, secondé de Moko Kosamba, directeur général de la SCTP. Sont aussi membres de cette cellule Bruno Tshibala, Jean-Pierre Kambila et les professeurs Mabi Mulumba.
Merci à vous, Idossa Olenga. Cependant, certaines personnalités citées dans cette équipe affirment qu'elles n'ont pas été contactées. Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA en sigle. Au-delà des différentes réactions suscitées par la publication de cette équipe du FCC, quelle lecture vous faites de cette initiative du FCC?
Bon, écoutez, depuis longtemps, la majorité présidentielle s'est montrée droit dans ses bottes et engagée, hein, très engagée à l'idée d'affronter les élections du 23 décembre de l'année. Contrairement, comme je le disais tantôt, à certains qui, à 2-3 semaines de la campagne électorale, sont encore dans des discussions pratiquement qui n'apportent rien. Le FCC à monter ce que l'on a appelé de ce côté-là la machine gagnée. Quand vous regardez les personnalités qui composent cette méga structure, vous dites tout de suite que c'est des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui ont une certaine renommée, des gens qui ont une certaine base et qui peuvent influencer positivement les choses. Donc, moi, je considère qu'au niveau du Fonds commun pour le Congo, l'on mesure la portée des défis qu'il y a et qui les attendent le 23 décembre. Ils ne sont pas certains qu'ils vont gagner, mais ils s'y préparent, contrairement à ceux qui sont déjà en train de préparer les contestations. Prenez des gens qui sont autour de... Vous avez parlé de ceux qui contestent, qui n'ont pas été consultés, mais ils n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas du FCC. J'ai ouï dire un journaliste crié qu'il est journaliste et qu'il ne peut pas être mêlé à ça, en même temps qu'il est candidat député provincial ou national pour les comptes d'un parti politique. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tous ceux qui figurent sur cette liste, d'une façon ou d'une autre, sont au FCC, parce qu'ils n'ont jamais contesté le fait qu'ils ne sont pas du FCC. Ils n'ont jamais contesté ça.
Merci
donc
beaucoup.
Vous comprenez que c'était que du sensationnel, peut-être ce que l'on appelle une pique des rappels pour vous dire, mais je suis là, mais voilà, vous me mettez peut-être ici ou là. Donc moi, je crois que l'opposition devrait, à son tour, suivre l'exemple du FCC, c'est préparer, c'est ranger en ordre de bataille pour pouvoir affronter les élections, que de continuer à se fixer des rendez-vous au nord ou au sud, des rendez-vous qui, on le sait, n'apporteront probablement rien.
Merci, puis Gérard Elenga, journaliste politique. Jean-Pierre Kayembe a commencé à relever cela, c'est la composition, n'est-ce pas, de cette équipe. On y trouve toutes les catégories sociales du pays, les pasteurs, les prêtres, les hommes politiques, les hommes de culture, mais ce qui semble attirer l'attention, c'est la présence des membres du gouvernement dans cette équipe de campagne du candidat du FCC et qui sont chargés, n'est-ce pas, des tâches qu'ils accomplissent déjà au sein du gouvernement. Et comment vous analysez cela? Vous avez suivi Jean-Pierre Kayembe qui estime que c'est des personnalités, n'est-ce pas, qui ont pignon sur eux, qui peuvent facilement influencer les votes.
Très bien. Alors, je voulais revenir un peu par rapport à ce que mon ami Jean-Pierre Kayembe était en train de dire, pour que finalement nous puissions lever cet équivoque par rapport à l'opinion, par rapport aux Congolais et par rapport à ceux qui nous suivent. Le Front commun pour le Congo est une structure politique privée, mais une structure politique congolaise. Donc, je veux dire que cette structure politique est composée des Congolais. L'opposition dans son ensemble est composée aussi des fils et filles de ce pays, donc des Congolais. Qu'on cesse de vouloir faire montrer à l'opinion que les FCC c'est l'enfer, les FCC c'est je ne sais pas moi, c'est comme si quelqu'un faisait partie du FCC, il a commis le plus grave péché qui peut l'amener à l'enfer. Non, non, non. Si quelqu'un, tous les Congolais sont libres d'adhérer au regroupement, au parti politique qu'ils veulent, que ce soit au FCC, IDPS, MLC ou que sais-je encore. Donc là, ça doit être clair.
Puis Gérard Elenga. Mais,
oui.
Et donc, ceux qui sont membres du FCC doivent assumer leur choix, n'est-ce pas?
Mais justement, est-ce que ceux qui sont membres du FCC ne sont-ils pas Congolais, n'assument-ils pas leur choix? Non. Mais au-delà du fait que vous avez dit la présence des membres du gouvernement dans cette équipe de campagne, c'est peut-être là où ça fait un peu mal, là.
on se pose la question, et c'est peut-être le caractère éléphantesque de cette équipe de campagne de l'honorable Ramazan Chadari qui pose un peu des problèmes, mais qui est presque un fourre-tout où on trouve tout le monde, parce que le Congo, nous aimons toujours exceller un peu dans la particularité. Mais posons-nous la question, nous avons connu deux cycles électoraux dans ce pays. Est-ce que l'équipe de campagne de Kabila de 2006 et de 2011, comment était-elle composée, ces deux équipes-là, pour ces deux cycles électoraux? 800 ou 700 et quelques membres pour une campagne électorale, vous ne voyez pas que c'est quand même trop entre nous, quand même, soit dit. C'est excessif et inutilement. Je pense qu'il y a déjà un comité ou ce qu'on appelle un comité stratégique du FCC, dont même Bitakura qui est en train de pleurer parce qu'il voulait être coordonnateur ou rapporteur d'une des cellules, mais il est membre dans ce comité stratégique. Alors, c'est le caractère éléphantesque et surtout, je le disais, que tout le monde va avoir ses pensées vers les élections. Et quand on trouve, par exemple, les gens qui sont à la tête des ministères, à la tête des gouvernements par rapport à la vie nationale, vont aller faire ça, vont aller faire la campagne. Et le reste du pays, par rapport à la conduite des affaires publiques, comment cela va-t-il se passer?
On rappelle c'est la grande question. Moi, je crois que
pour les gens qui... Oui, allô?
Oui, on rappelle aussi que avant même les comités stratégiques du FCC, il existait ce qu'on appelle, en fait, la structure continue à exister, ce qu'on appelle la centrale électorale de la majorité présidentielle.
Oui, la centrale électorale de la majorité présidentielle a été même créée bien avant la création du Front commun pour le Congo. Là, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi moi je dis que c'est une bonne guerre. Qu'on sache, l'opposition doit cesser un peu d'être parfois, chaque fois, se présenter comme cet enfant orphelin qui doit chaque fois pleurnicher. Non, pendant que les autres amis de l'autre côté sont en train de se préparer, hein, ils ont mis toutes les stratégies, toutes les batteries en marche, ils ont créé leur CENI, hein, une CENI appartenant à la majorité présidentielle, bien sûr. Mais ici, nous avons l'impression comme si l'opposition est un peu distraite sur le terrain. Voyez un peu comment est-ce que les choses se passent.
Oui,
vous voyez que
Gérard,
effectivement qu'ils sont prêts pour les élections. La mobilisation sur le terrain, vous pouvez traiter ça de tout ce que vous voulez, mais merci. Moi, je reste dans le fait. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous disons quand même que cette équipe est éléphantesque pour rien. On pouvait la réduire encore davantage parce qu'ils ne servent à rien. Tout ça, c'est de l'argent.
Merci.
Cet argent va venir d'où? Cet argent va sortir d'où? Les coordonnateurs du FCC faire réduire cette équipe pour ne pas... Parce que quand c'est trop aussi comme ça, le travail risque de ne pas être efficace.
Merci. Merci Edel Martin Kabuta-Kapwa, directeur général de la radio-télévision Sanga et mettant des Kananga au Kasaï central. Cette problématique de l'utilisation des moyens de l'État au profit d'un candidat refait surface. Les autres candidats à la présidentielle dénoncent la présence, n'est-ce pas, des membres du gouvernement dans ces équipe de campagne du FCC et exige la démission du Premier ministre ainsi que la radiation du candidat du FCC. Comment vous analysez cette exigence de l'opposition?
Oui, Guy Maté, je pense que c'est cela même la raison d'être de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 qui a modifié la loi 06/006 du 9 mars 2006. Vous savez que dans ce pays, nous ne sommes pas à la première expérience des élections. Nous avons connu des élections en 2006 et en 2011. Et quand vous lisez cette loi, la nouvelle loi, la loi 15/001, on vous dit que c'est pour corriger les faiblesses constatées sur le terrain lors des premières, donc des scrutins qui ont précédé. Mais si aujourd'hui, bon, j'ai écouté mon confrère Gérard Elanga qui parle que le problème se trouve au niveau de la quantité, donc de la composition de cette équipe. Mais moi, je veux dire, le problème se trouve aussi bien au niveau de la qualité qu'au niveau de la quantité. Donc, au niveau de la qualité, pourquoi? Vous savez, quand on était dans les premières lois, on disait, lorsqu'un candidat assume des fonctions publiques, il doit d'abord démissionner. C'est ici. Je pense que le législateur le faisait en connaissance de cause pour éviter que le candidat puisse utiliser les fonds publics à sa propre campagne, à son travail, donc à sa vie privée. Mais si aujourd'hui, on voit que la plupart des membres du gouvernement font partie de cette équipe de campagne de M. Chadari,
Je pense que l'équilibre n'est plus, parce que si il y a d'autres, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui ne sont pas aux commandes, est-ce qu'ils pourront faire la même chose? Voyez, prenez d'abord l'exemple, les jours de la présentation officielle de M. Chadari, j'étais à Kinshasa, j'ai vu comment, même si on disait que non, ce sont les moyens, les cotisations des membres, tout ça, les véhicules Transco, j'étais du côté Massina, j'ai vu comment ces véhicules sortaient du garage avec les jeunes gens qu'on est allé recruter. Est-ce qu'un autre candidat pouvait faire la même chose? Je pense, même au niveau du législateur, on a demandé, on a cherché à renforcer l'équipe donc de la magistrature, donc les magistrats et les juges, dans le sens qu'ils peuvent bien traiter les dossiers, et au niveau de notre loi, c'est pour que la balance, donc il y ait équilibre. Mais nous trouvons maintenant avec ce qui est fait, que la balance n'est plus équilibrée.
Merci.
Il y a un penchant d'un côté ou de l'autre côté.
Merci.
Donc, ils ont raison que les membres du gouvernement devaient démissionner parce que ce qu'ils viennent de faire ou ce qu'ils pourront faire. Prenons l'exemple du ministre chargé de la sécurité. Si lui, déjà, il va sécuriser un candidat qui est de la majorité, lui, il est là. Il devait rester, comme on a toujours dit, l'église au milieu du village. Qu'est-ce qu'il fera avec un autre candidat, les concurrents de leur candidat, de leur propre concurrent? Est-ce qu'il va faire la même chose? Est-ce que même le candidat-là pourra avoir confiance, par exemple, d'aller vers celui-là en sachant qu'il va assurer sa sécurité? Je pense que les membres du gouvernement ne devaient pas faire partie de cette équipe.
Merci
gouvernementale.
Adèle,
on
Martin.
Devait chercher d'autres personnes pour assurer la sécurité, donc pour
merci,
assurer la
merci
campagne.
Adèle.
De M. Chadari.
Merci Jean-Pierre Kayembe, et puis Gérard Lenga a commencé à les relever ici. Et on se rappelle qu'en 2006, le président Kabila a été élu, il a été réélu en 2011, sans pour autant avoir recouru, n'est-ce pas, à une telle méga organisation. Et à votre avis, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci pour qu'on mette en place une telle machine électorale? On rappelle que c'est une équipe composée de plus de 600 personnes et c'est une équipe composite et composé de plusieurs personnalités. Et l'élément qui peut expliquer cela, c'est quoi aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe?
La loi électorale actuelle ne proscrit pas ce qu'un membre du gouvernement soit à la fois candidat et qu'il garde ses fonctions. Donc, on est membre du gouvernement, mais on est d'abord politique. Je ne vois pas le mal qu'il y a que de se retrouver dans une équipe de campagne, parce que la plupart de ceux qui sont dans cette équipe sont également membres. Bon, qu'est-ce qui a changé entre 2006, 2011 et finalement 2018? Moi, je crois que l'expérience du passé sert des leçons. En 2006, on a eu une élection à deux tours. 2011, c'était tour unique. Et puis, on est en 2018 où la donne politique a changé, l'expérience aussi étant. Et puis, vous avez les habitudes qui changent. On est en plein air du numérique, et ainsi de suite. Et puis, il faut savoir que le Congo est vaste. Le Congo est vaste. 2 300 000 quelque chose de kilomètres carrés, c'est vaste. Et quand on a l'ambition de gagner, il faut une équipe costaud qui comprend les enjeux et qui cherche à les relever. Moi, je crois que c'est vraiment important, parce que dans ça, chacun... Tous les besoins sociaux, tous les besoins de la population vont être rapportés au niveau des commissions différentes. Et que quand vous prenez par exemple la commission chargée de l'élaboration du projet des sociétés, à l'époque c'était un groupe de gens. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les tendances, toutes les catégories socioprofessionnelles qui se retrouvent pour rédiger le projet des sociétés, qui ne sera pas une exclusivité d'un groupe de caciques bien outillés, mais qui va ressortir les besoins prioritaires de la population, ce qui ne se fait pas ailleurs, où vous avez 2-3 personnes qui se réunissent, peut-être sans comprendre certains enjeux, qui voient vous pomper de chiffres et tout ça, vous
merci.
Parlant de projets de société.
Merci,
donc moi je crois que Chadari a eu le temps de mesurer.
Merci Jean-Pierre Kayembe. Puis Gérard Elenga, vous avez affirmé que l'opposition doit sortir de sa distraction. Vous pensez qu'elle n'a pas raison de dénoncer lorsque la loi est violée. Et c'est comme par exemple lorsque vous avez des membres du gouvernement, mais entre-temps ils font partie de l'équipe de campagne d'un candidat. Est-ce que ce n'est pas la violation de la loi? Et face à cela, l'opposition ne doit pas rester indifférente, n'est-ce pas, Puis Gérard Elenga?
Non, mais écoutez, Guy Maté, je suis en train de dire que le problème de dénoncer une violation de la loi n'est pas une affaire particulière par rapport à l'opposition. Dénoncer tout ce qu'il y a comme déviation par rapport à la loi, c'est un devoir citoyen de tout Congolais. Lorsque ça ne marche pas, il ne faudrait pas seulement être de l'opposition ou du FCC ou de la majorité ou de la société civile pour dénoncer cela. Mais je pense qu'il y a des questions qui relèvent quand même du bon sens, au-delà de ce que Jean-Pierre Kayembe est en train d'affirmer. Même si Shadar n'est pas Kabila ou Kabila n'est pas Shadar, tant mieux. Mais on devrait aussi se servir, par exemple, de l'expérience positive, de la manière dont Kabila a mené ces choses par rapport à la campagne. Parce que la structure de la campagne n'est qu'une structure circonstancielle, je le précise. Tout ne va pas être pris en compte par rapport à cette structure. Je reviens avec l'exemple de Bitakura que je ne cesse de citer. Lui qui s'est vu ne pas se retrouver comme coordonnateur ou rapporteur d'une de ces lignes. Il est membre quelque part, mais il a fait une sortie médiatique mettant en garde les gens de l'ex-majorité présidentielle que ce n'était pas comme ça qu'ils s'étaient entendus, tout ça, et ainsi de suite. Vous voyez déjà. Donc nous avons des politiciens qui, certains, se sont retrouvés là-bas tout simplement parce qu'ils savent que l'argent va sortir pendant la campagne. Ceux qui vont détourner, ils vont détourner. Ceux qui vont l'utiliser abusivement vont le faire. Mais moi, le bon sens m'oblige à dire que les membres du gouvernement, c'est quand même indécent qu'ils puissent se retrouver dans cette structure. Ils pouvaient bien jouer même le rôle de second plan, mais pas apparaître comme les Makilala, coordonnateur de la cellule chargée des transports, le professeur Mouva, coordonnateur de la cellule chargée de sécurité, pendant qu'il est ministre d'État, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de Sécurité. Je trouve quand même qu'au-delà du fait que Mbé l'a dit, on est avant tout politique, on appartient à une structure politique donnée, mais le bon sens, lorsqu'on a les charges de l'État, voudrait quand même que ça ne soit pas ainsi. Et oui, je ne cesse de le redire, quand même si on veut rassembler, on veut fédérer, mais quand ça devient aussi trop, on risque de tomber dans l'inefficacité.
Merci.
Les 2 millions, si c'est quelques millions de kilomètres carrés, 80 millions, n'ont pas évolué, M. Kayembe. Nous sommes dans le même Congo, rien de spécial sur ce point-là n'a changé.
Merci.
Donc, pour moi, je dis que ça ne sert à rien d'avoir 800 ou 700 et quelques membres pendant que le problème de la coordination risque même de se poser, le problème du contrôle risque même de se poser.
Merci.
On
Pigera.
Entend bien certaines personnes qui sont là, ils aiment trop l'argent, ils ne voient que l'argent et pour se faire un peu gonfler les poches. Je trouve qu'on pouvait réduire cette équipe.
Merci, Pigérard. Edel Martin Kabuta-Kapoua, au-delà de tout ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, au sujet de cette équipe, mais il faut quand même reconnaître que la mise en place de cette équipe pourrait impacter le processus politique et le processus électoral dans ce sens que elle peut, n'est-ce pas, pousser les autres politiques à pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que les temps pressent et qu'il faut s'organiser, n'est-ce pas, pour remporter la victoire du 23 décembre prochain.
Oui, mais je pense qu'il faut... C'est important, mais il faut respecter les règles de jeu. Vous savez, si l'équipe s'organise pour gagner des élections, il s'agit de l'organisation interne. Il n'y a rien à reprocher. Mais il faut voir que les méthodes à utiliser. Vous savez, si on met au niveau du football, on dit qu'il ne faut pas être hors jeu. Et qu'il y a une équipe qui s'apprête pour être hors jeu afin de lui permettre de bien marquer le but. Je pense qu'il a violé les règles de jeu. Et il y a lieu maintenant que l'arbitre puisse vraiment sanctionner cela et que on puisse éviter des troubles qui puissent. Dans cette composition, je pense qu'elle prête déjà, qu'elle montre déjà ce que sera le scrutin ou ce que seront les résultats de demain.
Merci. Nous passons au deuxième thème de ce soir. 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été documentés en 2018, dont un emprisonnement a révélé l'ONG Journaliste en danger, JED en sigle, dans son rapport publié vendredi dernier à Kinshasa. Cette organisation de défense des droits des journalistes indique que 54 cas d'arrestation ou interpellation ont également été notifiés. Et selon le secrétaire général de JED, certaines personnes abusent de leur position pour commettre toutes sortes d'abus et d'atteinte aux droits et libertés des journalistes. Chivis Chivadi répond au micro d'Innocent Olenga.
Nous nous sommes rendus compte que l'un des maux, sinon le principal dont souffre notre pays, surtout en matière de droits de l'homme, c'est l'impunité dont jouissent certaines personnes identifiables, qui abusent de leur position pour commettre toutes sortes d'abus et d'atteintes aux droits et libertés des autres, mais qui ne sont jamais inquiétés pour cela. Et cela est particulièrement vrai en matière de liberté de presse et d'expression. Cette journée spéciale nous donne donc l'occasion de rappeler que dans ce vaste pays qu'est la République démocratique du Congo, le climat général de travail des journalistes ne s'est guère amélioré au cours de l'année 2018. Et la perspective de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre dans un contexte de vive tension politique accroît un peu plus les menaces qui pèsent sur les professionnels de l'information si aucune mesure n'est prise pour faire respecter la liberté de la presse ou renforcer la sécurité des journalistes. Au cours de cette année, donc, et alors que la campagne électorale n'a pas encore commencé, nous avons compté 121 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en l'espace donc de 12 mois.
Edel Martin Kabutakapwa, on revient à vous. On rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Sanga, émettant des Kananga au Kasaï Central. Et comment vous réagissez à ces rapports des GED 2018?
Oui, je vois avec ce rapport, les signaux sont au rouge. Les signaux sont rouges, vraiment c'est regrettable dans le sens que la campagne n'a même pas encore commencé, mais on dit qu'elle n'a pas encore commencé officiellement, parce qu'officieusement, on sent déjà avec tout ce qu'on voit, les pancartes, des visites, des mobilisations qui se font de gauche à droite, nous pouvons dire que cette campagne a déjà commencé, même si la CENI, aujourd'hui, garde silence, il ne sait pas punir, parce qu'on sait que ce qui mène déjà cette campagne précipitée, précoce, ce sont les membres du gouvernement où ils sont au pouvoir, et elle est incapable de pouvoir sanctionner ces gens. Mais je dis, vous savez que la liberté de la presse est garantie par notre Constitution. Mais si un journaliste, dans le cadre de son travail, il a cherché le deuxième son de cloche, et que le détenant de pouvoir, il trouve que non, ça va la contre de ses intérêts, il cherche à pouvoir maintenant immobiliser ces journalistes au niveau des cachots, au niveau de la prison, je pense que c'est de l'entorse. C'est de l'entorse, c'est parce qu'ils aiment aussi des flatteurs dans le sens. Quand on parle en bien, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'un journaliste se permet de donner une information qui essaye de mettre à clair, à nu, ce que l'autorité publique a eu à faire, ou ce que quelqu'un détenant un pouvoir quelconque a eu à faire, il devient poursuivable, donc ça devient maintenant des chantages avec la complicité de notre justice qui n'est pas totalement indépendante et directement on donne de l'ordre, alors que la loi même dit un ordre mal donné ne s'exécute pas. Nous n'avons jamais vu l'indépendance de la justice au niveau de notre pays. Cette indépendance ne reste qu'au niveau du papier,
merci,
au niveau de la loi seulement, mais on voit que les journalistes sont inquiétés alors qu'ils font et comme ils font leur travail.
Merci. Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Et c'est chaque année qu'on recense les atteintes à la liberté de la presse. Les années s'écoulent, mais rien n'échange. Et comment vous expliquez cela?
Non, beaucoup de choses ont changé.
Qu'est-ce
dans
qui a changé,
ce pays, vous connaissez les pays limitrophes qu'il y a autour de nous. Ce qui s'est fait ici n'a jamais existé ailleurs. Donc, ce rapport est certes alarmant, mais moi, je crois que beaucoup de choses ont évolué entre-temps. Vous connaissez, il n'y a que dans ce pays qu'a existé, à un moment donné, ce que l'on a appelé les journalistes engagés. Vous connaissez ça ailleurs? Non, et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est en train de prouver ses limites. Vous avez aujourd'hui, j'ai comparé avec le confrère Peter Tiani qui a été arrêté, mais est-ce qu'il faut suivre ce qu'il a fait contre le Premier ministre? Là, on va, le journaliste, faudrait pas que le journaliste pense qu'il se croit tout permis. Et il faudrait pas qu'au nom du droit de réponse qui est autorisé, que quand la personnalité de quelqu'un est traînée dans la boue, il est en droit d'aller au pénal. Donc moi, je crois que ce qu'il faut faire, il faudrait que GED demande d'abord aux journalistes d'être suffisamment professionnels, suffisamment responsables, qu'ils réalisent la portée de la responsabilité sociale qui est la leur. Aujourd'hui, il n'y a que dans ce pays où un journaliste peut se réveiller un matin, passer à la télévision ou à la radio, commencer à insulter les gens.
Oui, Jean-Pierre Kayembe,
il fait des allégations qu'il ne peut étayer, et ça c'est grave.
Jean-Pierre Kayembe, est-ce que vous savez qu'il y a aussi un obstacle, c'est celui des difficultés, n'est-ce pas, qu'ont les journalistes à pouvoir accéder à l'information officielle, d'où la nécessité d'accélérer ces processus d'adoption de la loi relative à l'accès, n'est-ce pas, à l'information ici en RDC. Ça c'est un problème sérieux qui doit être résolu, n'est-ce pas?
Oui, je crois qu'il faut finalement dépénaliser les délits de presse, mais je pense, j'insiste beaucoup plus sur la responsabilité sociale. Je vous donne un cas. Peter Tiani se base sur un article d'un collègue, Scoop RDC. L'argent, $400,000 disparu de chez Bruno Tshibala. Il s'arrête là. Il n'a même pas cherché à joindre la famille Tshibala ou à joindre les proches de Tshibala
Jean-Pierre,
pour avoir une autre version des faits. Il publie ça comme ça.
Jean-Pierre,
vous trouvez ça réaliste, vous trouvez ça normal, les professionnels.
Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vais vous rappeler que nous ne sommes pas en train de faire le procès de Peter Tiani, surtout qu'il n'est pas lui-même là pour donner sa version des faits. Nous parlons de la situation de la presse en RDC. Et puis Gérard Elenga, journaliste politique, il y a des personnes, des observateurs qui mettent en exergue le fait que en RDC, il y a une cinquantaine d'organes de presse, il y a une centaine de journaux, et que cela serait, n'est-ce pas, un indice pour affirmer que la liberté de la presse est de mise en RDC. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
D'accord. Mais il faudrait quand même faire la part des choses au-delà de ce que nous pouvons dire. Je rappelle que je crois bon nombre parmi nous sur le plateau ici, à commencer par vous-même, Guy Maté, M. Martin, Jean-Pierre Kayembe et moi-même, nous avons fait les cycles, les sciences de l'information et de la communication. Je ne me trompe pas que nous sommes passés par la plus grande école de formation de journalisme ici en RDC, qui est l'IFATIC, l'Institut Factuel d'Information et de la Communication. Et nos maîtres de l'art et de la science nous disaient « modus et monus », qui veut dire en français « charge publique, mais avec manière ». C'est à ce niveau-là que je rejoins quand même qui parlait de la responsabilité sociale du journaliste par rapport à l'information. Autant que nous reconnaissons, il y a beaucoup de moutons noirs dans notre métier, autant que nous reconnaissons, il y a beaucoup d'égarés, parce que moi, j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle que nous puissions devenir un ordre, même si nous faisons partie des sciences sociales, que le journalisme puisse devenir un ordre aujourd'hui pour écarter un peu tous ces autres-là. Ça, c'est mon point de vue. Mais je dis tout autant que ceci ne donne pas droit, surtout ces démêlés, ces entrefaites, nous les avons souvent avec les politiciens. Ils voudraient que nous fassions les choses telles qu'eux, ils aiment. Lorsque vous communiquez bien, vous informez bien par rapport à eux, ça leur arrange. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors vous devenez un animal à abattre, vous devenez quelqu'un sur qui tous les projecteurs sont braqués parce que vous avez dit telle ou telle autre information. Je prends le cas de nos amis d'Africanistes qui venaient d'être arrêtés ici au niveau de la police provinciale, du commissariat de la police provinciale de Kinshasa. Qui ne connaît pas dans ce pays que nos généraux de la police, de l'armée, s'illustrent dans les détournements de fonds, des rations, de l'argent des petits policiers, des petits militaires. Et ils avaient des preuves, parce qu'ils l'ont dit, ils devaient faire l'objet d'être arrêtés. Qui ne sait pas dans ce pays que la société, la banque, la BCDC, avec ce Belge qui est là, ils doivent aujourd'hui à 850 et quelques Congolais qui ont été injustement licenciés. Et quand un journaliste revient sur ça, parce que ce Belge-là, l'argent, il se connaît avec les généraux, le pouvoir judiciaire, on vient, on arrête les journalistes. Excusez-moi, l'équilibre social du Congo, l'équilibre social de la société congolaise, tient aussi du fait que nous, journalistes, nous sommes là. Après, peut-être les églises, tout ça, ainsi de suite, qui essaient d'apaiser un peu les gens moralement, mais les journalistes, nous faisons notre travail.
Puis Gérard, vous avez raison, l'élément important, n'est-ce pas, qu'il faut relever par rapport à cette problématique, c'est aussi la notion des responsabilités du journaliste. Et qu'est-ce que vous proposez pour que la liberté de la presse soit démise en RDC, en conclusion?
Non, écoutez, la liberté, je ne sais pas, j'aurai encore une prise de parole, bien c'est ma dernière fois de prendre la parole.
C'est la conclusion.
Très bien. J'ai dit que la liberté de la presse, il faut quand même être honnête et correct. C'est une réalité en République démocratique du Congo. Vous n'irez pas ici en face chez Sassou Nguesso faire tout ce que nous faisons ici au Congo, soyons corrects. Même pas chez Kagame, en Ouganda, n'en parlons même pas. Vous serez tout de suite, je ne sais même pas, liquidé ou quoi, immolé devant tout le monde. Mais ici, les gens critiquent Kabila, les gens critiquent l'opposition, les gens critiquent Mosengo, ils critiquent tout le monde.
Merci.
Mais le souci, c'est aussi dans le fait que nous puissions avancer la société, aller de l'avant. J'en appelle à la responsabilité des journalistes par rapport au rôle qu'ils sont en train de jouer, les charges publiques avec manière, mais que les politiciens, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, qu'ils ne croient pas qu'en étant premier ministre, en étant ministre, en étant juge ou quoi que ce soit, vous pouvez tout vous permettre parce que vous avez les pouvoirs.
Merci, puis Gérard. C'est par là que nous clôturons cette émission. Merci à Bob Bolandou qui était à la technique, à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamando. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.